Radio Primitive.
Légal depuis 1981.
Pouli, bonsoir.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Bonsoir.
On va démarrer ce soir en vous parlant du festival du film antifasciste qui aura lieu dimanche au temps des cerises.
Au temps des cerises. Et sinon, on va faire notre petite revue de presse habituelle. Il y aura quoi au programme
Alors moi, je vais pouvoir vous parler de peut-être... De téléphones qui vont pouvoir être activés à distance et connectés pour nous surveiller.
Ça, c'est chouette.
Et puis de capteurs de données biométriques que les forces de l'ordre auront au bord des routes.
Trop bien.
Dans la suite, je pourrais te parler de drones aussi, avec le ministère de l'Intérieur qui veut commencer à les autoriser pour la couverture des manifs. J'ai un petit truc sur les fichages illégaux qu'il y a eu à Lille. Bon, un bon petit truc d'ailleurs. Et sinon, immigration avec Mayotte et la Grèce.
Ok, voilà. On commence par notre agenda.
Petit agenda directement. Attends, j'ai pas préparé. Ah si,
c'est, on fait ça gros. Tous les
Allô
à chaque fois.
Allô.
Qu'est-ce cela?
C'est le calendrier des télécoms.
Ok. T'as quoi pour l'agenda? Moi, si tu veux, j'ai.
Je comptais sur toi.
Ok, tu comptes sur moi.
Mais j'ai un truc pour dimanche.
Ok. Je me demande, c'est quoi? Ouais, du coup, le week-end, un très grand week-end à Paris, du 1er au 6 juin, 10 ans après le meurtre de Clément Méric, une petite semaine d'action antifasciste. Grosso merdo, le jeudi 1er juin, il y a le lancement de l'ouvrage Clément Méric, une vie des luttes, à la librairie Libertalia. Des concerts au Kilowatt le vendredi 2 juin, avec entre autres Agnostic Front et Syndrome 81. Le 3 juin, meeting antifasciste à la Bourse du Travail de Paris. Un match d'équipe féminine de foot. Ça se passera au stade Louis Lumière. Et des concerts encore avec Medine, DJ Pone, Rossé. La parole errante à Montreuil. Le dimanche, manifestation antifasciste, départ du métro Barbès, rassemblement en hommage à Clément le 5 juin rue Caumartin, dans le 9e, et manifestation contre les retraites le 6 juin. Voilà pour moi.
Ok, c'est carrément une semaine.
Ouais, c'est 6 jours, mais il parle d'un week-end quand même.
Ok. Bon.
On va parler du festival du film antifasciste qui aura lieu dimanche. On va peut-être laisser la parole à Elodie.
Bah, tout d'abord, bonjour, merci de m'avoir invité. Vous me lancez comme ça sans question?
Ce festival est organisé cette année par la Ligue des droits de l'homme. Donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de la section sur la lutte antifasciste de la Ligue des droits de l'homme, peut-être ?
Oui, alors la Ligue des droits de l'homme était déjà partenaire de festival depuis des années. Et c'est vrai que cette année, il y a eu un peu une refonte de la Ligue des droits de l'homme section de Reims, et avec la création notamment d'un groupe de travail antifasciste. Donc on est plein dedans, mais il n'y a pas que notre groupe de travail antifasciste qui a été sollicité pendant le festival. Le groupe de travail jeunesse aussi a été très sollicité.
Et c'est un festival qui est construit avec pas mal d'autres organisations et collectifs également, ce que je vois sur...
Oui, ça en a gardé de toute façon l'esprit du festival, et ça a toujours été de faire avec les partenaires avec lesquels on travaille au cours de l'année. Donc il y en a encore un qui s'est ajouté aujourd'hui, donc on est à 19 partenaires. Okay.
Et donc c'est la 16e édition. Et est-ce que tu veux nous présenter les grandes lignes du programme ?
Ben oui, d'accord. Donc il y aura 12 projections au débat. Avec la création, on commencera par la création d'un film qu'on a créé, donc la LDH Reims, avec Unicité, qui va s'appeler « Suis-je intégrable à la société française ?». C'est tourné sous forme de micro-trottoir dans les rues de Reims. C'est un peu une reprise d'un projet justement qu'on avait fait pendant le festival il y a 15 ans, qui s'appelait « Le Champenois est-il intégrable à la société française ?», qui était sorti dans le contexte des lois CESEDA. Et là, on ressort un peu le même projet, mais dans le contexte des lois Darmanin et de toutes les questions des droits des étrangers.
Du coup, l'idée, là, c'est de poser des questions qu'on pose habituellement pendant le parcours de régularisation des gens, ou qu'on pose aux migrants sur leur vie, sur leur motivation, etc.
Alors,
ou sur leur connaissance de la société et de la culture française, et de poser ces questions à des gens qui sont, qui sont français et qui... Quel résultat ils auraient s'ils devaient s'intégrer à la société française, un peu, c'est ça ?
C'est un peu ça. En fait, on a repris les questions posées dans le contexte de demande de naturalisation par décret. Et il n'y a pas, en fait, un questionnaire type. Donc, nous, on a repris des témoignages de Rémois. Donc, c'est vraiment ce qui se pose comme question à Reims. Et je vous en dis une quand même, parce que celle-ci me fait quand même beaucoup rire. Parmi les questions, il y a quand même « Qui est pour vous Brigitte Bardot ?»
Une fasciste.
Bah pour moi aussi, dis donc. Je suis pas sûr que ça soit la bonne réponse.
Okay. Et si on a toutes les bonnes réponses, on peut devenir français, c'est ça le but. Ok. Et
je crois que ça suffit pas quand même.
Le Rémois et la Rémoise sont plutôt des mauvais français.
Non, je vais pas vous révéler le film. Mais de toute façon, vous pourrez tester, puisque les bénévoles d'Unicité Cinéma et Citoyenneté vont animer un petit stand qu'ils ont appelé officiellement, où vous pourrez tester vos connaissances en direct.
Okay.
Donc le second film, on est vraiment sur la lutte antifasciste pure et dure contre l'extrême droite, avec un film sur Béziers, Béziers l'envers du décor. Donc là aussi, ça sera un work in progress, puisque le film est en cours de mixage, et il va faire deux fois 1h30. Donc nous, on va vous proposer 1h10 de morceaux choisis, et d'échanger avec le réalisateur, puis aussi avec René Monza, spécialiste de l'extrême droite, pour aussi, au-delà de l'exemple de Béziers, discuter de ce qui se passe dans les villes gérées par l'extrême droite. Puisqu'on voit bien qu'il y a une stratégie commune. Il y a des spécificités, mais aussi des stratégies communes. Après, on passe sur tout autre chose, sur le droit des femmes, enfin tout autre chose, pas forcément d'ailleurs, sur le droit des femmes, mais en tout cas sur un tout autre format, puisqu'on va passer d'une série de très courts, issus donc du Mobile Film Festival. Donc le principe, en fait, c'est un mobile, une minute, un film. Donc ça va aller très vite, mais on va aborder comme ça à peu près toutes les questions, toutes les questions. Beaucoup de questions sur droit des femmes et les questions LGBTQIA+.
Okay. Ça, je vois que ça sera animé par des membres de la coordination féministe, c'est ça ?
Oui, la coordination féministe de Reims et alentour, tout à fait. Après, on va passer sur tout ce qui est question d'intelligence artificielle, puisqu'on connaît bien la situation à Reims avec notre cher maire Arnaud Robinet qui nous a mis l'intelligence artificielle sans prévenir la population sous prétexte d'expérimentation et qui recherche de toute façon un nouveau partenariat. Puis on est aussi à la veille des Jeux Olympiques. Donc il nous semblait important d'aborder cette thématique avec Maryse Artiglon, qui est spécialiste au sein de la LDH de ces questions et animatrice du groupe de travail Liberté, Technologie de l'Information et de la Communication. Et on diffusera donc le film, qui va être un film de mêlant fiction et animation, qui s'appelle Le Congrès. Voilà pour la partie film, mais le festival, ce n'est pas que des ciné-débats.
C'est déjà un espace et un temps où on rencontre plein de gens. Pour y avoir participé quelques fois. Et déjà, c'est un moment plutôt convivial, même si on peut peut-être pas rester 4 heures devant pour voir tous les films. Il y a des moments d'échange, il y a des stands.
Il y a une possibilité, je vois qu'il y a dans le village, il y a un espace pour les enfants où on peut, si des adultes ont envie de voir un film, ils peuvent laisser les enfants cet espace d'accueil.
Alors, c'est pas que de l'accueil, hein, qu'elles y tiennent bien, le groupe de travail jeunesse. Ce n'est pas de la garderie, même si effectivement on prend en charge les enfants, c'est par des pros de l'animation. C'est pas des bénévoles qui s'inventent animateurs enfants. Donc que les parents soient rassurés et ils feront des activités diverses de la lecture, de l'initiation au cinéma, du shooting photo. Enfin, je crois qu'il y a une quinzaine d'activités différentes que les filles nous ont préparées. Donc les enfants ne doivent pas s'ennuyer logiquement. Ils n'auront pas l'impression justement d'être en garderie. À mon avis, ils verront pas que les parents sont plus là. Ils sont partis en projection débat.
D'accord.
Et puis, il y aura de quoi se restaurer également. Il y aura des repas vegan prix libre qui seront proposés.
Oui, il y aura aussi des impromptus. Il y aura pour la première fois le FFA Awards. Donc, on va faire une remise de prix parce que le festival du film antifasciste, c'est aussi de l'humour et de l'impertinence. C'est pas seulement voir des films que finalement on pourrait louer, regarder dans son canapé. L'idée, c'est bien d'échanger, de débattre et puis de s'amuser. C'est quand même un dimanche. Ça se veut festif et familial.
Ok, super.
Eh ben, on vous invite tous à nous y rejoindre. Donc, ça se tient au temps des cerises. Dimanche de 14h à 22h. Voilà. On va se mettre un petit peu de musique. Merci à toi d'être venu présenter.
C'est moi qui vous remercie. Donc, je n'ai pas dit quand même, on peut trouver le programme complet sur le Facebook de la LDH ou le Facebook du festival qui s'appelle Film Antifa.
C'est parfait, c'est complet.
On est disponible à la primitive aussi.
Ok, on va se partir avec un petit sexy sushi. J'aime mon pays. C'était Sexy Sushi avec J'aime mon pays.
Alors, on vous a pas donné l'adresse du temps des cerises tout à l'heure pour le festival du film antifasciste, là. Donc, dimanche, ce sera rue Marie-Dominique Mingot. C'est pas le parking de l'hippodrome. Arrêt Kennedy en tram. Et voilà. Et donc, dimanche, de 14h à 22h, festival du film antifasciste au temps des cerises.
À prix libre.
À prix libre. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous lire un article à propos de la police, enfin d'une nouvelle loi qui va passer. Bon, allez, je vous lis ça. C'est publié par Contre-Attaque. Ils veulent pouvoir activer à distance nos appareils connectés pour nous surveiller. Dans le roman 1984 de George Orwell, qui décrit une dystopie totalitaire avec une surveillance absolue de la population, les habitants doivent avoir dans leur domicile un télécran. Il s'agit à la fois d'une télévision qui diffuse en continu la propagande du gouvernement et d'une caméra de surveillance qui permet aux autorités de voir ce qui se fait dans chaque pièce où se trouve un individu. Ce télécran est une invention terrifiante. Personne ne peut savoir précisément quand la surveillance est activée et à quel moment la police peut entendre et voir dans la maison, si le système est en train d'enregistrer ou pas. Créant une méfiance permanente, une forme d'autocontrôle décrit par Michel Foucault dans « Surveiller et punir ». En 2023, le gouvernement français veut pouvoir activer à distance le téléphone d'un suspect, à la fois pour le géolocaliser, mais aussi pour capter les sons et les images. Très concrètement, il s'agit d'activer à votre insu le micro ou la caméra de votre téléphone n'importe quand, lorsque vous dînez avec des amis, discutez au café, êtes aux toilettes, ou lorsque vous faites l'amour. C'est déjà possible techniquement. Le gouvernement veut simplement légaliser cette pratique dans le cadre de procédures policières. Ce sont des dispositions de l'article 3 du projet de loi d'orientation de la programmation de la justice, de Dupond-Moretti. Évidemment, aucun média dominant ne parle de cette loi gravissime. Ils sont trop occupés à accuser la gauche de violence et de wokisme, à relayer les éléments de langage du pouvoir ou à s'apitoyer sur un chocolatier bousculé par des manifestants. Mais le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris a rédigé un communiqué pour dénoncer le projet de loi, expliquant « Cette possibilité nouvelle de l'activation à distance de tout appareil électronique, dont le téléphone portable de toute personne qui se trouve en tout lieu, constitue une atteinte particulièrement grave au respect de la vie privée qui ne saura être justifiée par la protection de l'ordre public. » Le Conseil de l'Ordre s'inquiète ainsi aussi qu'il soit possible d'écouter les échanges entre un avocat et son client. Ce sont des moyens de surveillance inédits dans l'histoire de l'humanité qui sont en train de se généraliser tranquillement. Cette loi veut aussi « simplifier » entre guillemets le code de procédure pénale et ainsi renforcer entre guillemets les pouvoirs des enquêteurs et du parquet au détriment du respect de la vie privée et des garanties fondamentales des droits de la défense, ainsi qu'élargir les possibilités de perquisition, y compris en pleine nuit. C'est une loi de dictature extrêmement attentatoire aux libertés élémentaires. Le Conseil d'État considère que l'activation à distance des téléphones pour enregistrer des sons et des images à l'insu des suspects peut porter une atteinte importante aux droits et au respect de la vie privée, sans pour autant la rejeter. Le gouvernement d'extrême droite qui dirige la France est une menace absolue pour nos libertés. Il n'est plus seulement question d'aggravation de la répression, de violences policières ou de passage en force par 49-3. C'est une offensive généralisée. Il en va de nos vies, de la possibilité même d'exister, sans être exposé en permanence au contrôle total des agents d'un régime fou dangereux. Voilà. Musica.
Musica. C'était où, tu l'avais eu?
Sur Contre-Attaque.
Sur Contre-Attaque, ok. Et
ben, voilà, on passe... anciennement en entrée voltée.
Ok. Et ben, écoute, un petit monde parfait.
C'est parti.
De jouer gluten.
Un enfant, une chèvre, le bleu du ciel, un beau sourire du bout des lèvres, un crocodile, une vache, du soleil. Et ce soir je m'endors au pays des merveilles. Ce matin j'imagine un dessin sans nuages, avec quelques couleurs comme vient mon pinceau. Du bleu, du rouge, je me sens sage comme une image. Et ce soir je m'endors au pays des merveilles.
imagine un dessin sans étoiles, de toutes les couleurs, un dessin sans contour. Quand ça me plaît plus, j'efface tout et je recommence, avec d'autres maisons et d'autres animaux. Oh, ce matin j'imagine un pays sans nuages, où tous les perroquets ne vivent plus en cage. Des jaunes, des verts, des blancs, je fais ce qui me plaît, et c'est comme ça que j'imagine un monde parfait. Un oiseau, un enfant, une chèvre, le bleu du ciel, un beau sourire. Ok, 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 elle est un peu pétée cette chanson quand même. On va essayer de trouver autre chose, genre un molotov. Ouais, 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 si, ouais, vas-y, ok, allez.
Un molotov en pavé, un drapeau noir. Le bleu du ciel et du sang de sur le trottoir. L'Élysée qui s'écroule et une nuit de six au soleil. Et ce soir je m'endors au pays des merveilles. Un molotov en pavé, un drapeau noir. Le bleu du ciel et du sang de sur le trottoir. L'Élysée qui s'écroule et une nuit de six au soleil.
Et ce soir je m'endors.
Voilà, c'était Joe Gluten avec un monde parfait. Je vais poursuivre avec un article de la Quadrature du Net qui va suivre pas mal ce que nous a dit Julien juste avant. Les drones qui fera atterrir le ministère de l'Intérieur. Mardi dernier, nous avons participé à une audience au Conseil d'État pour demander la suspension du décret autorisant la police nationale à déployer des drones sur le territoire. La décision devrait être rendue dans quelques jours. D'un côté, associations et syndicats dénonçant une nouvelle dérive de surveillance et de militarisation de l'espace public. De l'autre, un ministère de l'Intérieur méprisant ouvertement les principes élémentaires des droits fondamentaux. Épaulé par le contexte sécuritaire, ce dernier se permet même de clamer tout haut ses fantasmes sécuritaires entre dispositifs de marquage invisible et pilotes de drones à moto. Nous en parlions l'année dernière. Après plusieurs revers pour le gouvernement, celui-ci a réussi à faire voter par le Parlement un texte légalisant l'usage des drones par la police nationale et la gendarmerie. En avril dernier, un décret, attendu depuis longtemps, a été publié par le ministère de l'Intérieur. Il permet au préfet de prendre des arrêtés pour autoriser la police à utiliser des drones pour des missions de surveillance. Depuis la publication de ce décret, il est rare que quelques jours se passent sans qu'un arrêté vienne prévoir un nouveau déploiement. Manifestations, frontières, rodéos urbains, événements culturels, Le Monde dénombrait la semaine dernière plus d'une cinquantaine d'usages en à peine un mois. Les drones ne sont d'ailleurs pas les seuls à être autorisés. La police peut également utiliser des caméras fixées sur les hélicoptères, on parle de boules optroniques, capables d'identifier des individus à plus de 2 km. Pour contrer cette vague sécuritaire d'une rare intensité parmi d'autres, les associations et organisations syndicales mènent une bataille sur le terrain en procédure d'urgence directement contre les arrêtés devant les tribunaux administratifs, avec quelques succès mais beaucoup de défaites. En complément, c'est pour lutter en amont contre ce déploiement que l'Association de défense des libertés constituelles, Adelico, a attaqué directement le décret d'autorisation des drones en demandant la suspension en référé, c'est-à-dire une procédure d'urgence de ce texte. En attendant une décision sur le fond pour son annulation, la Quadrature du Net est intervenue au soutien de cette procédure. Des dispositifs de surveillance ni nécessaires ni proportionnés. L'audience dans cette affaire s'est déroulée mardi dernier. Comme toute audience de référé, les débats oraux se sont déroulés avec, d'un côté, une représentante du ministère de l'Intérieur, en l'occurrence la directrice des libertés publiques au ministère, et de l'autre, les associations et syndicats partis ou intervenant au recours. C'est-à-dire l'Adelico, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature et la Quadrature du Net. Entre les deux, le juge des référés, un conseiller d'État qui décidera seul s'il convient, oui ou non, de suspendre le texte. Pendant près de 3 heures, les associations ont répété leurs inquiétudes sur la nouvelle atteinte que représente la surveillance par drone. Une surveillance mobile, invisible, en capacité de surveiller d'un seul regard plusieurs centaines de milliers de personnes, l'intervention, une requête et une réplique de LQDN se concentraient sur le principe de nécessité et de proportionnalité au sens du droit de l'Union européenne. Le principe que nous invoquions pour démontrer l'illégalité de ce décret se résume en un mot. Le ministère ne démontre à aucun moment la nécessité d'utiliser des drones pour remplir ses missions de protection de l'ordre public, en particulier par rapport à l'armada d'agents, de caméras et de véhicules qu'il a déjà à terre. Pire, les drones étant en capacité de récupérer des données sensibles, comme des opinions politiques lors de la surveillance de manifestations, même si les drones traitent d'autres types de données sensibles dans les autres contextes d'utilisation, le ministère doit prouver la nécessité absolue d'utiliser ce dispositif, ce qu'il ne fait à aucun moment. Ces principes ont beau être inscrits explicitement dans le droit français et européen et renforcés par des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, la représentante du ministère les a balayés d'un revers de main pendant l'audience. Le ministère clame haut et fort son mépris des droits fondamentaux. Monopolisant la parole et coupant celle des représentantes des associations, la représentante du ministère de l'Intérieur s'est contentée d'affirmer que cet outil leur était désormais bien utile car la police était devenue une cible qui excite les manifestants. Les débats ont ainsi révélé que l'objectif du ministère n'était pas seulement de protéger la population ou de suppléer un manque d'effectifs, mais particulièrement pendant les manifestations, de protéger la police des manifestants. Le ministère a refusé toute considération sur les libertés, considérant qu'il s'agissait d'une innovation technologique sans gravité particulière par rapport à la vidéosurveillance, nécessaire par rapport aux risques terroristes, et qu'on avait heureusement évolué par rapport aux épées du Moyen-Âge. Un tel raisonnement passe-partout lui permettra de justifier toute invention technologique, peu importe la finalité et les conséquences sur nos libertés. Autre point, le décret reconnaît que les drones pourront filmer l'intérieur des domiciles, ainsi que les entrées ou terrasses ou jardins, alors qu'il s'agissait auparavant d'une limite infranchissable de la surveillance. Le ministère soutient au contraire qu'il se donne 48 heures pour conserver ces images et les transmettre si besoin à l'autorité judiciaire. Notons que ce mépris du ministère pour le droit n'est pas nouveau. Cela fait plus de 3 ans que nous menons des contentieux contre l'usage des drones par la police, et cela fait plus de 3 ans que le ministère enchaîne les contre-vérités et les approximations devant les juridictions. Il aura fallu 2 décisions du Conseil d'État en 2020 et une sanction de la CNIL début 2021 pour les forcer à s'arrêter une première fois, avant que la loi ne vienne les légaliser. Et encore, déjà à l'époque, le ministère de l'Intérieur ne montrait que du mépris envers les institutions qui le contraignaient. En mai 2020, il a inventé une doctrine d'emploi pour tenter d'échapper à la sanction. À l'été 2020, la préfecture de police de Paris sortait de son chapeau un dispositif de floutage désactivable à souhait. En 2021, la CNIL justifiait la sanction, décision la plus forte que la CNIL peut prendre, du ministère de l'Intérieur, par le fait que ce dernier avait annoncé qu'il ne respecterait pas une éventuelle mise en demeure ou avertissement. La surveillance de l'espace public en surchauffe. Cette surchauffe se fait sur 2 lignes parallèles. L'une d'entre elles concerne la multiplication et l'extension des moyens de captation, caméras de vidéosurveillance fixe, caméras piétons, caméras sur les véhicules, caméras dans les halls d'immeubles, hélicoptères de surveillance, drones de surveillance. Depuis 1996, cette extension est exponentielle. De l'autre côté, c'est l'utilisation des images captées qui est démultipliée. Mutualisation des flux, vidéosurveillance augmentée, reconnaissance faciale, etc. Il devient d'abord difficile de tenir le compte des lois et règlements sur le sujet entre loi sécurité globale en 2021, loi responsabilité pénale et sécurité intérieure et loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur en 2022, loi Jeux Olympiques en 2023 et on en oublie sûrement. Le Sénat prépare d'ailleurs déjà la prochaine étape avec une proposition de loi sur la surveillance biométrique. Le ministère de l'Intérieur a par ailleurs annoncé à l'audience qu'un décret encadrant l'usage des drones en police judiciaire, soit pour la recherche d'auteurs d'infractions, était dans les tiroirs. Toujours plus inquiétant, les préfets et le ministère ne se satisfont déjà plus de drones. Dans les échanges lors de l'audience ou pendant la procédure écrite, comme l'a soulevé Mediapart, le ministère fait déjà part de ses velléités pour le futur. Drones équipés de lampes puissantes, pilotes de drones à moto et drones équipés de dispositifs de produits de marquage codés, spray ou billes tirés à partir de fusils à air comprimé permettant de marquer certains individus lors des manifestations. Où s'arrêtera le ministère de l'Intérieur ? Nous espérons que le Conseil d'État mettra un coup d'arrêt à cette intensification sans précédent de la surveillance de l'espace public. Et on passe tout de suite sur un petit morceau de musique, Queen Latifah, UNITY.
Calling the bitch.
We gotta let 'em know. UNITY, that's the one. Here we go. UNITY,
brother, call a girl a bitch or a hoe. Trying to make a sister feel low, you know all of that got to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool. But don't you be calling me out my name. I bring rap to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down a block, I had my cut off shorts on, right? Cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. One of them felt my booty, he was nasty. Yeah. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said,
yeah, me, bitch.
And laughed. Since he was with his boys, he tried to break fly. I punched him dead in his eyes.
Who you calling a bitch?
U-N-I-T-Y.
C'était le morceau Unity de Queen Latifah.
Eh ben merci. Et donc maintenant, on va se lire un petit article que j'ai trouvé sur Info Libertaire. Et c'est chez Stut, le Mutu belge. Et donc voilà, c'est parti. 7000 capteurs de données biométriques pour les forces de l'ordre en France. Le ministère de l'Intérieur français profite du renouvellement de son marché de capteurs d'empreintes digitales et de lecteurs de documents d'identité pour investir 1,6 million d'euros dans des solutions de prise d'image faciale et plus de 21 millions de capteurs nomades d'empreintes digitales, doigts et palmaires, soit 7000 capteurs nomades de contrôle biométrique. Le marché porte sur plusieurs types de capteurs d'empreintes digitales, monodoigts, multidoigts, standards ou multidoigts fine épaisseur. Les capteurs et logiciels devront être capables de détecter une usurpation d'identité, par exemple détection d'un faux doigt. Le capteur doit résister au choc et pouvoir être temporairement mis dans des poches de blouson ou de pantalon. Les deux autres lots concernent des lecteurs de bandes MRZ et de puces RFID susceptibles de pouvoir reconnaître les documents d'identité, de séjour, de voyage et des lecteurs vérificateurs qui doivent pouvoir détecter des données exploitables via la bande MRZ et la puce sans contact dès présentation par l'utilisateur d'un document d'identité, de séjour ou de voyage. Ils devront également être capables de lire et transférer les données contenues dans les puces des documents de voyage, incluant la vérification de la chaîne des certificats, les données OCR, MRZ, texte et images, et les codes à barre 1D et 2D imprimés sur le document. les puces RFID, smart card, puces, passeport électronique sans contact. Un autre lot encore concerne les solutions de prise d'image faciale qui doivent comprendre une caméra, un trépied panoramique et tridirectionnel, un arrière-plan ainsi qu'un dispositif d'éclairage. Le ministère prévoit d'acquérir annuellement un maximum de 150 lecteurs de bande MRZ et de puces, 200 capteurs d'empreintes digitales monodoigts et multidoigts et solutions de prise d'image faciale, 300 lecteurs de documents sécurisés de séjour et de voyage, mais jusqu'à 3000 capteurs d'empreintes digitales et palmaires. Ces derniers devront en outre respecter un plan de livraison dont les délais semblent indiquer qu'il aura été défini pour permettre aux policiers et gendarmes douaniers d'être équipés à marche forcée d'ici aux Jeux Olympiques d'été de 2024 à Paris. Voilà. Alors, voilà. Donc c'est des marchés. Le lot numéro 3, par exemple, capteur nomade d'empreintes digitales. 51 millions d'euros. Donc voilà, il y a des millions pour ça, là, il n'y a pas de souci.
Oui, ils ont toujours du budget quand c'est pas l'éducation.
Voilà. Donc, tenez-vous prêts. Merci. Non, vas-y, musique.
C'était la classe.
I'm
Voilà, c'était les Beastie Boys et Santigold avec le morceau Don't Play No Game That I Can Win. Je vais continuer avec deux petits articles d'infomigrant.net. Alors le premier, Pushback, une vidéo accablante du New York Times montre des gardes-côtes grecs remettre des migrants à l'eau. Mi-avril, des gardes-côtes grecs ont placé sur un canot à la dérive en mer Égée un groupe de migrants, des enfants dont un nourrisson. Le groupe se cachait sur l'île de Lesbos quand il a été intercepté puis placé sur une embarcation en mer. Ce refoulement, strictement interdit par le droit européen et international, a été révélé par le New York Times dans une vidéo. Alors que les autorités grecques continuent de nier la pratique des refoulements à chaud, interdite par le droit international, le New York Times a publié vendredi 19 mai une enquête à partir d'une vidéo édifiante. Les images montrent un pushback survenu le 11 avril depuis l'île de Lesbos selon le média américain. Sur la vidéo filmée par un activiste autrichien, du début à la fin de l'opération, on voit d'abord 12 migrants, parmi lesquels 7 enfants, dont un nourrisson, de 6 mois tenus dans les bras, sortir d'un véhicule banalisé. Le groupe se cachait dans un bois de Lesbos qu'il avait rejoint la veille via un réseau de passeurs. C'est là que des hommes masqués les ont rassemblés et dépouillés de leurs biens, avant de les forcer à monter dans ce van blanc et de les y enfermer, retrace le New York Times. Arrivés sur le rivage, de nouveaux hommes masqués les obligent un à un à monter à bord d'un canot à moteur. Ils se sont ensuite débarqués sur un navire des gardes-côtes grecs, cette fois tout à fait identifiable. Ce bateau est principalement financé avec des fonds de l'Union européenne, rappellent les journalistes. Peu de temps après, les migrants sont mis à l'eau sur un canot gonflable identique à ceux utilisés en cas d'urgence et laissés à la dérive. Ils l'ont fait sans aucune pitié. « Nous ne nous attendions pas à survivre ce jour-là », a déclaré Madame Aden, une Somalienne de 27 ans au New York Times. « Quand ils nous ont mis sur le radeau pneumatique, ils l'ont fait sans aucune pitié. » Les journalistes ont retrouvé dans un centre de rétention à Izmir en Turquie 11 personnes du groupe issues de Somalie, Érythrée et Éthiopie. Parmi elles, Madame Abdoulaye, veuve originaire de Somalie, qui a fui la guerre au Yémen direction l'Europe avec ses enfants âgés de 2 à 17 ans. Toutes les personnes retrouvées témoignent, comme elles, avoir passé au moins un an en Turquie avant de trouver l'argent nécessaire et une place sur un bateau pour rejoindre Lesbos. « Je voulais juste aller dans un endroit où je pourrais être en sécurité », a témoigné Madame Aden. Après avoir dérivé en mer, le groupe s'est en effet retrouvé dans les eaux territoriales turques, une heure après leur abandon par les Grecs. Deux bateaux, des gardes-côtes turcs, sont venus leur porter secours pour les ramener sur la terre ferme. Ce jour-là, les autorités turques ont déclaré avoir secouru 12 migrants irréguliers sur le canot de sauvetage qui a été repoussé dans les eaux territoriales turques par des agents grecs. Une pratique régulièrement enquêtée. Les vidéos retraçant l'opération de refoulement de A à Z constituent peut-être la preuve la plus accablante à ce jour de la violation des droits des lois internationales et de l'Union européenne par les autorités grecques, commente le New York Times. Saisi, la Commission européenne à Bruxelles s'est déclarée préoccupée par les images et a promis de prendre attache avec les autorités grecques qui n'ont pas donné suite aux sollicitations des journalistes. L'utilisation de ces radeaux sans moteur a été documentée dans le passé, mais les autorités grecques ont nié y avoir laissé des migrants à flot, car ils ne sont pas navigables et peuvent se renverser. Si c'est la première fois qu'une telle preuve vidéo existe, le collectif international de journalistes Lighthouse Reports a ainsi plusieurs fois enquêté sur ce type de pratique. En février 2022, le consortium avait retracé l'histoire de Sidi Keïta, ressortissant ivoirien, et de Didier Martial Kouamounana, camerounais, dont le corps avait été retrouvé échoué sur les côtes turques. L'enquête avait abouti à la description d'une nouvelle tactique des gardes-côtes grecs, consistant à jeter de petits groupes de demandeurs d'asile par-dessus bord et les faire nager jusqu'en Turquie. La rédaction d'Infomigrants reçoit aussi régulièrement des témoignages d'exilés racontant avoir été refoulés en mer par les gardes-côtes grecs. Le dernier date de mai 2022, lorsque Brian expliquait qu'un bateau floqué d'un drapeau grec a repoussé son groupe de migrants vers les eaux turques. Ils nous ont crié dessus et ont pointé leurs armes sur nous, témoignait le jeune homme. Voilà pour la partie grecque et on va refaire un petit tour du côté de Mayotte, toujours sur infomigrant.net. En finir avec les bidonvilles, à Mayotte, les habitants confrontés à l'opération Wambushu. La démolition du bidonville de Talus 2 a débuté tôt lundi matin. La destruction de ce lieu de vie informel, l'un des plus importants de Mayotte, marque le départ de Wambushu qui vise à réduire l'habitat insalubre, lutter contre la délinquance et expulser les migrants en situation irrégulière. L'opération prévue fin avril avait été retardée par la justice. La nuit a été courte sur l'île de Mayotte. Dès 6h du matin, lundi 22 mai, les premiers camions de la gendarmerie ont débarqué dans le bidonville de Talus 2, dans le quartier de Machikawa, sur la commune de Kungu, au nord-est de l'île. Selon le journaliste Louis Eviter, présent sur place, vers 7h, les forces de l'ordre, équipées de pieds de biche et de masse, ont ouvert une à une les portes des abris informels pour vérifier que personne ne s'y trouvait. Une demi-heure plus tard, le balai des pelleteuses a débuté, fracassant les murs des habitations et écrasant la tôle dans un bruit métallique sourd. À Mayotte, ce matin, le volontarisme politique paye. Nous continuons la destruction des bidonvilles dans lesquels habitaient de nombreuses familles dans des conditions indignes en proposant des relogements, a tweeté Gérald Darmanin lundi. La destruction du quartier de Talus 2 est la vitrine de l'opération Wambushu, voulue par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, pour réduire l'habitat insalubre, lutter contre la délinquance et expulser les migrants en situation irrégulière, pour la plupart venus de l'archipel voisin des Comores. Un demi-millier de policiers et de gendarmes français ont été mobilisés pour l'occasion. Cette action était quasiment au point mort depuis son lancement il y a près d'un mois, prévu initialement le 25 avril. La démolition de Talus 2 avait été suspendue par le tribunal administratif de Mayotte. Mais deux nouvelles décisions de justice ont finalement donné raison à l'État, la dernière datant de mercredi. On trouvera un endroit pour dormir dehors provisoirement. Le décasage de Talus 2, qui mobilisait lundi environ 200 personnes, dont 150 gendarmes, devait durer toute la semaine, a indiqué à l'AFP Sylvia Devas, chargée de la résorption de l'habitat illégal à la préfecture de Mayotte. Les services de l'État ont dénombré 162 cases à démolir dans ce bidonville, a précisé le préfet Thierry Suquet. Plusieurs personnes avaient, dès dimanche, détruit elles-mêmes leurs habitations. Ça y est, ça c'est ma maison, j'ai cassé moi-même ma maison parce que le préfet a cassé ma vie, a dit un homme âgé au journaliste Cyril Castellitier, en reportage à Mayotte. L'homme de nationalité française a reçu une proposition de relogement. Mais comme beaucoup d'autres, il l'a refusé en raison notamment de l'éloignement géographique. On nous donne une maison, mais de l'autre côté de l'île, s'est plaint un autre habitant à France 24. Il vaut mieux qu'on reste ici avec les enfants et la famille, on trouvera un endroit pour dormir même provisoirement. Marteau et pince coupante à la main dimanche, pour démonter la tôle de sa case, Ahmed Daoud, 50 ans, avait raconté à l'AFP que les autorités lui avaient proposé un relogement à Chembe Niouba, à l'autre bout de l'île. « Je préfère qu'on reste ici, que les enfants continuent d'aller à l'école. On peut dormir sur la terrasse », soupirait cet homme de 50 ans en situation régulière à Mayotte. Les personnes relogées ne semblent pas non plus satisfaites. Un homme montre à un journaliste de l'AFP sa nouvelle habitation. « Je l'ai pris, mais ce n'est pas un logement. Il n'y a pas de pièce. Regardez comment je vis avec ma femme et mes enfants. Où est-ce qu'on dort ?» s'emporte-t-il devant la porte. Selon le préfet, la moitié des familles qui vivaient dans ce quartier ont été relogées. Au total, les autorités prévoient de détruire un millier de logements insalubres à Mayotte sur plusieurs mois, dans une quinzaine de zones. L'objectif est d'en finir avec les bidonvilles à Mayotte, a martelé Thierry Suquet, décrivant une situation insupportable pour les personnes qui habitent dans ces quartiers dont la vie est en danger. Le préfet a défendu la politique équilibrée de l'État qui, selon lui, permettra aux Français qui vivent dans ces conditions-là et aux étrangers en situation régulière d'avoir un hébergement adapté. Sur les 350 000 habitants estimés de Mayotte, la moitié n'a pas la population française, seul un tiers des habitants des quartiers insalubres la possède. Cette opération est un crève-cœur pour les habitants du bidonville dont beaucoup y vivent depuis des années. Fatima Youssouf, l'une des doyennes du quartier, a attendu le dernier moment pour quitter sa maison en dur, dans laquelle elle a investi toutes ses économies. Son mari Mahoré, qui travaille pour la société de démolition Tetrama, a été mobilisé pour l'opération. Devant la maison de sa mère, il a perdu connaissance avant d'être évacué vers l'hôpital. Zenabou Soufou, qui habite Talus 2 depuis 25 ans, a raconté à l'AFP avoir vu grandir ses 7 enfants dans ce quartier. Elle était lundi matin en larmes devant les engins de chantier qui détruisaient les structures en bois des bangas, les cases locales. Même état d'esprit pour cette habitante de nationalité française, au micro du journaliste Cyril Castellitti. « Ça fait mal, j'ai pleuré, mon petit frère est en train de pleurer, j'ai grandi là, depuis que je suis né, je suis là. C'est ça l'avenir de Mayotte, après ils vont dire qu'il y a des délinquants, alors que c'est à cause d'eux. » Voilà les nouvelles de Mayotte, et on va enchaîner avec un petit peu de musique avant de terminer.
I spent all my money on
Voilà, c'était Gilles Labande avec le morceau Eight Fivers.
Et c'était La Poulie.
La Poulie.
On va se quitter là-dessus.
Sur la radio primitive.
On se donne rendez-vous dans
15
semaines.
Jours.
Eh bien, prenez soin de vous et à dans 15 jours.
Voilà, et la semaine prochaine, c'est Passion Triste. Et à bientôt.
Ah, 18h30 la semaine prochaine.
Ah oui, la semaine prochaine. Là, dans 15 jours, ce sera à 18h30 parce qu'il y aura... un plateau avec nos amis, les élus de la mairie et tout ça. Vous pourrez les écouter juste avant nous. Je pense que ce sera super. Ouais. Et donc, 18h30 dans 15 jours, La Poulie. À bientôt.
À la prochaine.